Alors aujourd'hui, je vais vous lire la synthèse des yogas de Sri Aurobindo, chapitre 5, l'ascension du sacrifice number one. Alors, ça concerne les œuvres de la connaissance, l'être psychique. En somme, on peut affirmer avec certitude que toutes les solutions offertes sont et ne peuvent être que provisoires tant que l'on n'a pas atteint la conscience de vérité supramentale qui met à leur place l'apparence des choses et révèle leur essence ou ce qui en elles dérive directement de l'essence spirituelle. En attendant, notre seule sauvegarde est de trouver une loi d'expérience spirituelle qui nous dirige, à moins de libérer une lumière au-dedans de nous qui pourra nous conduire sur le chemin jusqu'à ce que cette conscience de vérité directe et plus grande soit atteinte au-dessus de nous ou née en nous. Car tout le reste en nous, tout ce qui est purement extérieur et qui n'est pas le sens spirituel ou la vision spirituelle, les constructions, les représentations et conclusions de l'intellect, les suggestions, les instigations de la force de vie, les nécessités concrètes de l'existence physique sont parfois des demi-lumières, parfois de fausses lumières, qui tout au plus peuvent nous servir pendant un temps et nous aider un peu, et pour le reste, nous retarder et nous embrouiller. La loi d'expérience spirituelle qui nous dirigera ne peut venir que par une ouverture de la conscience humaine à la conscience divine. Il faut le pouvoir de recevoir la présence dynamique de la Shakti divine, son ordre, son action, et se soumettre à son contrôle. C'est cette soumission et ce contrôle qui amène la direction spirituelle. Mais la soumission n'est pas sûre et la direction n'est pas certaine tant que nous sommes assaillis par des formations mentales, des impulsions vitales et les instigations de l'ego, car elles peuvent facilement nous tromper et faire de nous le jouet d'une fausse expérience. Ce danger ne peut être évité que par l'ouverture de l'âme profonde ou être psychique qui est déjà là au-dedans de nous, mais généralement pas actif et dont les 9/10 sont souvent cachés. C'est cette lumière intérieure que nous devons libérer, car la lumière de l'âme profonde est notre seule source, certaine d'illumination tant que nous marchons parmi les embûches de l'ignorance et que la conscience de vérité n'a pas encore pris la direction complète de notre effort vers le divin. L'action de la force divine en nous dans les conditions de cette période de transition et la lumière de l'être psychique qui nous pousse sans cesse à une obéissance consciente et clairvoyante à l'impulsion plus haute et nous détourne des exigences et des instigations des forces de l'ignorance, crée à elle de la loi intérieure de notre action, une loi en constant progrès et qui continuera jusqu'à ce que la loi spirituelle et supramental s'établissent dans notre nature. Pendant cette transition, il se peut qu'il y ait une période en nous où nous acceptions toute la vie et toutes les actions en les offrant au divin afin qu'elles soient purifiées, changées et que soit délivrée la vérité qu'elles contiennent. Et il se peut qu'il y ait une autre période où nous nous retirions et construisions un rempart spirituel autour de nous, n'ouvrant les portes qu'aux seules activités qui consentent à se soumettre à la loi de la transformation spirituelle. Pendant une troisième période, une action libre et intégrale peut redevenir possible, mais avec des formes nouvelles adaptées à la vérité absolue de l'esprit. En fait, ces étapes ne peuvent être décidées par aucune règle mentale, mais par la lumière de l'âme en nous et par la force ordonnatrice du pouvoir divin et sous sa direction progressive qui secrètement ou ouvertement met d'abord en mouvement le yoga qui commence clairement à le diriger, à l'organiser et finalement en prend la charge tout entière. Étant donné le triple le caractère du sacrifice, nous pouvons également diviser les œuvres suivantes dans un ordre triple. Les œuvres de la connaissance, les œuvres d'amour et les œuvres de la volonté dans la vie. Et nous verrons comment cette règle spirituelle plus souple s'applique à chaque domaine et effectue la transition de la nature inférieure à la nature supérieure. Du point de vue du yoga, il est naturel de diviser en deux catégories les activités du mental humain dans sa poursuite de la connaissance. D'une part, nous avons la connaissance supra-intellectuelle suprême qui se concentre sur la découverte de l'un et infini en sa transcendance, ou qui essaie par intuition, contemplation, contact intérieur direct, de pénétrer les vérités ultimes derrière les apparences de la nature. Et d'autre part, la science inférieure qui se diffuse dans la connaissance extérieure des phénomènes et étudie les déguisements de l'un et infini tels qu'ils se présentent à nous dans et à travers les formes plus extérieures de la manifestation cosmique autour de nous. Ces deux hémisphères supérieurs et inférieurs sous la forme construite ou conçue par l'homme dans les limites ignorantes de son mental se sont séparés d'une façon assez tranchante à mesure qu'ils se développaient. La philosophie, parfois spirituelle ou du moins intuitive, parfois abstraite et intellectuelle, parfois intellectualisant l'expérience spirituelle ou soutenant les découvertes de l'esprit par l'appareil de sa logique, a toujours prétendu que son domaine était de fixer la vérité ultime. Mais même lorsqu'elle ne s'est pas isolée sur les sommets raréfiés de la métaphysique et séparée de la connaissance qui appartient au monde pratique et à la poursuite des objets éphémères, la philosophie intellectuelle, de par son habituelle abstraction, a rarement eu un pouvoir d'action dans la vie. Elle a parfois été puissante dans ses hautes spéculations et rechercher la vérité mentale pour elle-même, sans autre objet ni utilité pratique. Elle s'est parfois distinguée par une subtile gymnastique mentale dans le monde brillamment nuageux des mots et des idées. Mais elle a marché ou fait de ses acrobaties fort loin des réalités plus tangibles de l'existence. L'ancienne philosophie en Europe était plus dynamique, mais seulement pour un petit nombre. En Inde, sous des formes plus spiritualisées, elle a fortement influencé la vie de la race, mais sans la transformer. Contrairement à la philosophie, la religion n'a pas essayé de vivre seule sur les hauteurs. Son but était au contraire de se saisir des activités de la vie, plus même que des activités mentales, et de les tirer vers le divin. Elle prétendait jeter un pont entre la vérité spirituelle et l'existence vitale et matérielle. Elle s'efforçait de subordonner l'inférieur au supérieur et de les réconcilier, de mettre la vie au service de Dieu et de rendre la terre obéissante au ciel. Il faut reconnaître que trop souvent, cet effort pourtant nécessaire a eu des résultats opposés, et que l'on s'est servi du ciel pour bénir les désirs de la terre. Et en fait, la pensée religieuse a continuellement servi de prétexte à l'adoration et au service de l'ego humain. Un yoga qui cherche une réalisation intégrale du suprême ne méprisera pas les œuvres ni même les rêves, si rêves ce sont, de l'esprit cosmique. Il ne reculera pas devant les forces splendides et la victoire variée de l'esprit, que l'esprit s'est assigné à lui-même dans la créature humaine. Mais la condition première de ce libéralisme est que nos œuvres dans le monde fassent aussi partie du sacrifice offert au Très-Haut et à nul autre, à la Shakti divine et à nulle autre puissance dans l'esprit vrai et dans la connaissance vraie par une âme libre et non par un esclave hypnotisé et enchaîné à la nature matérielle. Si l'on doit faire une division parmi les œuvres, c'est entre elles qui sont les plus proches du cœur de la flamme sacrée et celles qui sont le moins touchées ou illuminées par elles parce qu'elles en sont le plus éloignées. Ou entre le brasier qui chauffe avec puissance et éclat et les bûches humides qui, trop entassées et trop serrées sur l'autel, peuvent nuire à l'ardeur du feu par leur abondance diffuse et leur lourdeur. Mais autrement, à part cette distinction, toutes les activités de la connaissance qui cherche ou exprime la vérité sont en soi de bons matériaux pour une offrande complète. Aucune ne doit nécessairement être exclu du cadre immense de la vie divine. En même temps, le yogi qui connaît le suprême n'est soumis à aucun besoin, aucune obligation dans ses activités, car pour lui, elles ne sont ni un devoir, ni une occupation nécessaire à son mental, ni un haut amusement. Et elles ne lui sont pas non plus imposées par quelque mobile humain, même le plus noble. Il n'est attaché, lié ni limité par aucune de ces activités. Ce n'est pas non plus quelque motif personnel de gloire, de grandeur et de satisfaction personnelle qu'il recherche dans ses œuvres. Il peut les laisser ou les poursuivre comme le veut le divin en lui, mais il n'a pas besoin pour autant de les abandonner pour rechercher exclusivement la connaissance intégrale supérieure. Il agira comme le fait la puissance suprême elle-même quand elle agit et crée par une joie spirituelle dans la création et l'expression, ou pour aider à relier, organiser correctement ou diriger le monde des œuvres de Dieu. La Gita enseigne que, par sa manière de vivre, l'homme qui a la connaissance donnera à ceux qui n'ont pas encore la connaissance spirituelle, l'amour et l'habitude de tous les travaux, et pas seulement des activités auxquelles on reconnaît un caractère pieux, religieux ou ascétique. Son exemple ne devra pas détourner les hommes de l'action dans le monde. Car le monde doit aller de l'avant dans une grande aspiration ascendante. Les hommes et les nations ne doivent pas être induits à abandonner leurs activités, même ignorantes, pour tomber dans la pire ignorance de l'inaction, ni à sombrer dans la désintégration misérable et la dissolution qui s'empare des communautés, des peuples, où prédomine le principe tamasique d'obscure confusion et d'erreur, ou de lassitude et d'inertie. « Moi non plus, dit le Seigneur de la Gita, je n'ai nul besoin d'œuvrer, puisqu'il n'est rien que je n'ai point et que je doive encore acquérir pour moi-même. » Et cependant, j'œuvre dans le monde, car si je ne le faisais pas, toutes les lois tomberaient dans la confusion, les mondes sombreraient dans le chaos, et je serais le destructeur de ces peuples. Pour être pur, la vie spirituelle n'a pas besoin de détruire l'intérêt de toute chose sauf de l'inexprimable, ni de trancher à la racine les sciences et les arts et la vie. Il est fort possible que l'un des effets d'une connaissance et d'une activité spirituelle intégrale soit de sortir ces activités de leurs limitations, de les substituer aux plaisirs ignorants limités, tièdes ou trépidants que notre mental y trouve, un libre élan de félicité intense, exaltant, et de leur donner une nouvelle source d'illumination et de puissance spirituelle créatrice qui aura le pouvoir de les porter plus rapidement et plus profondément vers leur lumière absolue dans la connaissance ou vers des possibilités dont nous n'avons pas encore rêvé et de les remplir d'une énergie suprêmement dynamique, leur contenu, leur forme et leur pratique. L'unique chose nécessaire doit être poursuivi d'abord et toujours. Mais toutes les choses en découlent, et il ne s'agit pas de les ajouter à notre domaine, que de les retrouver et de les refaçonner dans la lumière de l'unique chose, comme des éléments de sa force d'expression. Sri Aurobindo. Alors, je dépose cette ascension du sacrifice les œuvres de la connaissance, l'être psychique. Merci, Shri Aurobindo. Merci, Mère.